Radio Kapi.
Oh, Kapi. Jocelyne Moussaou à la présentation.
Les États-Unis sanctionnent des entreprises congolaises et chinoises accusées de commerce illégal de minerais, de financement de la violence et des privations de revenus à l'État congolais. Ces sanctions visent également le groupe armé Pareco, force de frappe. Bientôt la réouverture du centre de capture des passeports à Matadi, cela 11 ans après sa fermeture. C'est une avancée pour les habitants qui n'auront plus à se déplacer jusqu'à Kinshasa. Et Kinshasa, la capitale, est étouffée par les embouteillages de la Changu à la Lukunga. La circulation paralysée pèse sur les quotidiens et la productivité des Kinois. Pour le commandant Ilunga Lukunga, Serge, pilote des lignes et expert en transport, seule la relance d'un train urbain peut désengorger la capitale. Il est l'invité de la rédaction. Bonsoir à tous. Le département du Trésor des États-Unis a annoncé hier mardi des sanctions contre des entités impliquées dans le commerce illégal de minerais et la violence des groupes armés en RDC, dont le groupe armé Pareco, force de frappe, et des entreprises congolaises et chinoises. Ces mesures interviennent alors que le commerce illicite de minerais alimente l'instabilité et prive le gouvernement congolais des revenus essentiels. Toutes les propriétés et tous les intérêts des entités sanctionnées aux États-Unis ou sous contrôle américain sont désormais bloqués et toute transaction non autorisée est interdite. Les détails avec Martial Papimukeba.
Pareco, force des frappes, actif depuis 2022 dans l'est de la RDC, a exercé un contrôle sur les sites miniers de Rubaya, imposa des taxes illégales aux mineurs, participa à la contrebande des minerais et recoura au travail forcé, inclua des exécutions des civils. Ces pratiques ont renforcé l'instabilité et aggravé les violations des droits humains dans la région, selon les départements du Trésor américain. Les sanctions ciblent également la coopérative des artisanaux miniers du Congo, qui a exploité et commercialisé des minerais provenant des zones contrôlées par Pareco Force des Frappes, ainsi que les sociétés d'exportation East Rise Corporation Limited et Star Dragon Corporation Limited, basées à Hong Kong, en Chine, qui acheminaient ces minerais sur les marchés internationaux. Selon les trésors américains, ces activités ont financé les groupes armés et privé l'État congolais des ressources légitimes. John Harley, sous-secrétaire du Trésor pour le terrorisme et les renseignements financiers, souligne que les sanctions visent à réduire le commerce des minerais des conflits qui pèsent lourdement sur les civils, favorisent la corruption et freinent les investissements légitimes en RDC. Béni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Parallèlement à cette action du Trésor américain, les relations entre la RDC et les États-Unis sont au cœur d'un autre débat. Le Forum des intellectuels congolais de l'étranger, FIS en sigle, dit ne pas être d'accord avec la déclaration d'une cinquantaine de parlementaires américains publiée lundi sur les négociations de l'accord sur les minerais critiques entre les États-Unis et la République démocratique du Congo. Dans une lettre adressée aux parlementaires américains signataires de la dite déclaration et dont une copie est parvenue à Radio Kapi, FIS affirme, je cite, « Votre lettre s'appuie sur des informations obsolètes qui ne reflètent pas la réalité actuelle, en grande partie en raison des réformes substantielles entreprises sous la direction du président Félix Tshisekedi ». Fin de citation. Plus de détails sur cette correspondance avec Alain Irung.
Selon le Forum des intellectuels congolais de l'étranger, si le travail des enfants et les violations des droits humains persistent malheureusement dans le secteur minier, ces incidents se produisent majoritairement dans les provinces de l'Est de la RDC, zone sous le contrôle du M23 soutenue par des forces extérieures, notamment rwandaises, depuis plusieurs années. Concernant les réformes majeures de la gouvernance et des institutions, FIS assure qu'au cours des 5 dernières années, la RDC a mis en œuvre des profondes réformes institutionnelles pour améliorer la gouvernance, la responsabilité et la protection des droits de l'homme. En réponse aux préoccupations en matière de droits de l'homme et d'environnement, FIS dit partager le point de vue selon lequel l'exploitation des ressources ne doit pas se faire au détriment des droits humains ni de la protection de l'environnement. À cette fin, la RDC a intensifié la surveillance, notamment par le biais du cadastre minier adopter des protocoles d'approvisionnement responsables conformes aux normes de l'OCDE et nouer des partenariats avec des organisations internationales pour garantir le respect des normes du travail et de l'environnement, indique le Forum des intellectuels congolais de l'étranger.
Pendant ce temps, au Nord Kivu, l'administrateur du territoire de Lubero, le colonel Alain Kiwewa, lance un appel urgent pour une assistance humanitaire en faveur de plusieurs déplacés installés à Njiapanda et Mangurejipa, deux localités du secteur de Bapéré, situées à environ 120 km de Butembo. Plusieurs d'entre eux ont fui depuis 3 mois les attaques des ADF dans la région. Parmi ces déplacés, plusieurs enfants souffrent de malnutrition liée à une alimentation insuffisante. Il insiste également sur la nécessité de fournir des kits scolaires à ces enfants à quelques semaines de la rentrée scolaire. Le colonel Alain Kiwewa s'exprime au téléphone avec Martial Papion-Keba.
Les déplacés qui sont au niveau du secteur de Bapéré, d'Amangurujipa, Djiapanda et ses environs, depuis l'incursion avec les EDF, la population de Mangurujipa et de Djiapanda, donc du secteur de Bapéré, sont démunis de tout. Ils n'ont jamais bénéficié d'une assistance quelconque. C'est vraiment un problème, c'est vraiment un besoin. Ceux qui m'auront écouté parmi nos partenaires, je fais un plaidoyer à ceux qui viennent évaluer un peu la situation des déplacés dans ces secteurs de Bapéré. On a encore besoin de cette assistance, surtout pour les besoins alimentaires qui posent également un problème, et surtout les enfants malnutris. Nous avons les enfants qui ne bénéficient absolument de rien. Ça nécessite vraiment qu'ils soient assistés d'une manière nutritionnelle. Et puis, bientôt, il y aura rentrée de l'école, donc ça nécessite également un appui en kit scolaire. Je profite aussi pour faire un plaidoyer à l'UNICEF, pour voir un peu de quelle manière on peut aider ces enfants qui vont bientôt rentrer à l'école et les parents sont démunis.
Environ 2500 personnes sauvées par Médecins sans frontières dans le territoire de Calais au sud Kivu. MSF leur a fourni des soins vitaux entre mai et juillet dernier. Mais notez aussi, hélas, que sur les 24 structures sanitaires évaluées par Médecins sans frontières, environ 15 ont été contraintes de fermer leurs portes, 10 ont été endommagées et une quinzaine pillées. Ces chiffres sont issus d'un rapport d'évaluation publié par l'organisation à l'issue d'une intervention de 2 mois dans cette partie du pays, où la guerre sévit depuis des décennies. Ronéline Tibonera.
C'est une intervention d'envergure humanitaire menée dans un contexte de tension où MSF a dû voler au secours des 2480 personnes pour leur prodiguer des soins vitaux. Dans un contexte marqué par un système de santé au bord de la faillite, MSF, entre mai et juillet 2025, a fourni des dons de matériels médicaux qui ont permis de soutenir les structures locales et de répondre aux besoins urgents de communautés, précise le rapport. Parmi les structures ayant bénéficié de cet appui, l'organisation cite les hôpitaux généraux de référence des Katana et Kalehe, ainsi que les centres de santé des Katana, Nour, Mabingu, Luchébéré, Kalehe et Luzira. L'intervention de MSF s'est focalisée sur la prise en charge pédiatrique des enfants de moins de 5 ans, les traitements de la malnutrition, les soins gynéco-obstétricaux présentant des complications et les soutiens aux victimes des violences, indiquent les documents. Malgré ces efforts, l'insécurité persistante dans certaines zones où les besoins sont pourtant criants constitue un frein majeur aux activités humanitaires, reconnaît Muriel Boursier, chef de programme MSF à Bukavu. Il existe encore des zones où nous ne pouvons pas intervenir alors que les besoins restent immenses. Il est essentiel que tous les acteurs garantissent un passage sécurisé pour l'aide humanitaire et qu'un approvisionnement régulier en médicaments et aliments thérapeutiques soit assuré par le ministère de la Santé et ses partenaires. Trop de centres de santé sont aujourd'hui gravement sous-approvisionnés, a-t-elle ajouté.
Bonne nouvelle pour la population du Congo central. Bientôt la réouverture du centre de capture pour la délivrance des passeports à Matadi. Et cela plus de 11 ans après sa fermeture. Annonce faite par le chef de bureau aux affaires étrangères qui a visité ses locaux dans le chef-lieu du Congo central. Occasion pour Roland Vakanda d'échanger également avec le vice-gouverneur Prosper Ntela sur cette problématique de délivrance de passeports qui pose problème dans ce coin du pays. Mais notez déjà que la population locale en souffre car elle doit parcourir de longues distances pour chercher le passeport ici à Kinshasa. Le point avec Nana Plourish-Mambou.
Ouvert en novembre 2009 et fermé en décembre 2014 pour plusieurs contraintes administratives dont le vol de la machine de capture, les centres de capture des données biométriques pour la délivrance des passeports de Matadi fit la 14e direction du ministère des Affaires étrangères. Mais à ces jours, ces services qui servaient à la capture des photos et enregistrement des éléments d'identité pour finalement imprimer les passeports à Kinshasa avant de les délivrer à Matadi ne fonctionnent plus. Conséquence, la population du Congo centrale effectue de longues distances avec tous les risques pour aller chercher cet important document de voyage à Kinshasa. Témoignage.
Dernièrement, nous avons effectué un voyage, moi et mes enfants, pour aller refaire le passeport. C'était pas facile du tout pour nous. La nationale numéro 1 court beaucoup de risques, les accidents, les coupures de route. Cela ne nous arrange pas. Et arriver aussi à Kinshasa, il faut trouver un logement. Déjà, c'est coûteux. C'est vraiment un très grand souci pour nous, les peuples du Congo central.
Pour les chefs des bureaux aux affaires étrangères, qui a visité ces centres de capture pour la délivrance des passeports ces week-ends à Matadi, sa réouverture imminente et les grands soucis de la ministre des Affaires étrangères. Objectif, désengorger les ministères des Affaires étrangères de l'afflux de la population venant de l'intérieur. Matadi, Nana Plurish Mambu, Radio Okapi.
En bref, notez que la Commission électorale nationale indépendante CENI annonce le lancement de l'opération de dépôt des candidatures pour les élections des conseillers urbains, des maires adjoints, ainsi que des bourgmestres et bourgmestres adjoints. L'enregistrement des candidatures pour ces scrutins débute ce vendredi 15 août, indique un communiqué de la CENI parvenu à Radio Capi ce mercredi. La centrale électorale précise qu'elle ouvrira les bureaux de réception et de traitement des candidatures dès que les moyens nécessaires seront disponibles. L'institution s'engage par ailleurs à respecter scrupuleusement les délais fixés dans son calendrier électoral et appelle tous ses partenaires et les parties prenantes à se mobiliser pour garantir les succès de ces élections. Nous l'avons relevé sur notre antenne. Les Quinois ont transformé plusieurs espaces publics en lieux d'aisance. La principale raison, selon de nombreuses personnes, est l'absence des toilettes publiques à Kinshasa. Plusieurs communes n'en comptent même pas, en effet. Et là où ces toilettes existent, leur nombre est minime. Ils atteignent rarement 3. Et les conditions hygiéniques laissent à désirer dans la plupart de ces lieux d'aisance. La Kinza Wami Ngitukula et bienvenue à Beli se sont penchés sur ce dossier. Suivez leur reportage.
Pour accéder à ces toilettes, il faut débourser entre 500 et 1000 francs congolais selon leur emplacement. Les rares qui existent sont dans des marchés ou des places publiques. À Gombe, nous en avons fréquenté 2, à la place des Évolués et à Royal. Si pour Royal, les conditions sont plus ou moins acceptables, à la place des Évolués, dès l'entrée, nous avons été accueillis par des mauvaises odeurs. À la base, les manques d'hygiène notamment, avec l'absence des produits d'entretien, nous dit un des responsables du site.
Institut des musées nationaux.
Ces toilettes sont gérées par les musées nationaux, mais nous recevons aucun produit. C'est avec l'épée qui entre que je m'organise pour acheter les articles d'entretien.
Ces conditions ne permettent pas aux Quinois d'y accéder, comme le témoigne une dame trouvée sur place.
Je pars me soulager à la Kadeko. Ces toilettes publiques, je ne les utilise pas car c'est trop sale.
La situation est la même dans plusieurs marchés visités, comme au quartier des anciens combattants en Galema ou à Kalembelembe à Lingwala. Pourtant, les toilettes publiques contribuent à l'image même de la ville, selon Joël Kiana, président des urbanistes congolais.
Les toilettes publiques sont des équipements d'intérêt général. Leur absence nuit à l'attractivité des lieux touristiques. Une ville qui ne prévoit pas de toilettes publiques est une ville inachevée.
Beaucoup de Quinois plaident pour des toilettes propres et plus nombreuses.
Dans la province de la Tchopo, la mairie de Kisangani amorce la lutte contre l'insalubrité publique. Dans ce cadre, Deli Likunde se propose de remettre des poubelles publiques aux bourgmestres des différentes communes de sa juridiction. Première étape, la commune urbaine de Kisangani. Le bourgmestre de cette entité les a remises à son tour hier au chef des différents quartiers de sa municipalité. Jacques Moukonkole nous en parle dans ce reportage.
Le premier lot est constitué de 24 poubelles publiques. Selon le bourgmestre de Kisangani, Gibson Boindi Liele, dans un premier temps, elles seront installées dans 3 quartiers situés le long de la RN4, la route qui mène vers l'aéroport international de Bamboka. Il en spécifie l'utilisation.
Ces poubelles, c'est pour placer ça sur la voie publique. Nous ne pouvons pas permettre que les déchets ménagers soient versés dans ces poubelles. J'invite toute la population de ma juridiction d'en faire un bon usage.
Quelques chefs de quartier saluent ce geste qui permettra de lutter contre l'insalubrité sur les voies publiques. Ils promettent de sensibiliser leurs administrés afin d'adopter un comportement responsable.
Que cet acte du maire de la ville ne soit pas peine perdue. Que chaque individu ait l'habitude de jeter les déchets dans les poubelles publiques. Nous allons entretenir la population sur le bien fondé de ces poubelles parce que le maire de la ville ne veut pas voir des déchets dans les caniveaux.
Le bourgmestre Gibson Boendi précise que ces poubelles seront vidées chaque samedi avant d'acheminer les déchets vers un site approprié pour leur destruction. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le Qatar va multiplier les annonces d'investissement en Afrique lors d'une tournée diplomatique. Un des principaux cadres de la monarchie qatarienne entame ce mercredi une grande tournée africaine à Kinshasa. Cheikh Al-Mansour est un cousin de l'émir du Qatar, mais il est aussi à la tête d'un grand conglomérat de la pétromonarchie du Golfe. Il est attendu dans 10 pays d'Afrique centrale et australe jusqu'au 29 août et il ne viendra pas les mains vides.
L'invité.
Tous les quartiers de tous les quatre districts de la province de Kinshasa, à savoir la Tchangou, Funa, Mangafula et Lukunga, sont confrontés à des embouteillages monstres qui paralysent la circulation et compliquent considérablement le quotidien des Kinois. Cette saturation routière entraîne frustration, retard et une baisse de productivité pour les étudiants, élèves et travailleurs. Selon le commandant Ilunga Lukunga Serge, pilote des lignes et expert en transport, Kinshasa est une mégapole et ne peut pas fonctionner sans train urbain. Commandant Ilunga Serge s'entretient avec Stanislas Djoumi.
Commandant Ilunga Lukamba Serge, bonjour.
Bonjour.
Quelles sont les causes des embouteillages à Kinshasa?
Les causes de l'embouteillage à Kinshasa, c'est le déséquilibre ou bien la disproportion qu'il y a en termes démographiques dans la ville de Kinshasa. Kinshasa, c'est 10 000 km². Une seule commune, la commune de Maloko, c'est 80% de la superficie de la ville de Kinshasa et il n'y a que 200 000 habitants là-bas. Et la deuxième commune qui suit, c'est Ntsele, 1 000 km² et il n'y a que 400 000 habitants. La troisième commune, c'est Mongafula, 350 km² et il n'y a que environ 300 000 habitants là-bas. Donc vous avez trois communes qui font 97% de la superficie de la ville de Kinshasa et dans ces trois communes-là, il n'y a que plus ou moins 1 million d'habitants. Les 21 communes restantes, c'est 7% de la superficie de la ville. Et là-dedans, il y a 14 millions d'habitants. Vous imaginez comment est-ce qu'on est confiné dans cette petite superficie. C'est ça la cause majeure des embouteillages dans la ville de Kinshasa.
Commandant Serge, pour d'autres personnes, les embouteillages sont causés par le manque d'infrastructures routières et les taux élevés des véhicules à Kinshasa. Alors, comment réagissez-vous à cette opinion?
Je parlais de la cause majeure. Évidemment, ce n'est pas la seule cause. Et les véhicules dont vous parlez, ils sont où? 7% de la superficie de la ville de Kinshasa, 14 millions d'habitants, et les 7% dont je parle là, tous les véhicules sont là-dedans, 14 millions de personnes sont là-dedans, et tout le monde va vers la même direction le matin, et tout le monde va vers la même direction le soir. Voilà la cause majeure des embouteillages dans la ville de Kinshasa. Les autres causes, elles sont mineures. Évidemment, il y a l'état des routes déplorable. Vous prenez une commune comme Barumbu. La commune de Barumbu n'a presque plus de route. Dans la commune de Barumbu, vous n'avez nulle part 1 kilomètre de route. Ça aussi, c'est un problème sérieux. L'indiscipline des usagers des routes, c'est ça aussi, c'est un problème. Mais si on pouvait résoudre le problème des déséquilibres, et nous avons des solutions et des pistes pour résoudre ces problèmes-là. Si on peut résoudre le problème des déséquilibres, je crois que 60% du problème d'embouteillage peut être résolu.
Parlons solution maintenant. En tant qu'expert en matière de transport, qu'est-ce que vous préconisez comme solution pour résoudre ce phénomène d'embouteillage?
Il y a des solutions à très court terme, à moyen terme et à long terme. Mais si je dois en une minute répondre à votre question, je l'ai dit plusieurs fois dans plusieurs médias, que Kinshasa est une mégapole et Kinshasa ne peut pas fonctionner sans train urbain. Je l'ai dit même quand le gouverneur Daniel Bumba commençait son mandat, je l'avais dit dans les médias, les vidéos sont là. Si on ne réhabilite pas le train urbain dans la ville de Kinshasa, la question des embouteillages ne sera jamais résolue. Kinshasa, c'est 17 millions d'habitants et tout le monde va dans la même direction le matin. Et allez voir la route boulevard Lumumba. À 4h30 du matin, il y a embouteillage.
À partir des quartiers 1, abattoir, à 4h30, il y a déjà embouteillage. Vous avez parlé de trains. Il en faut combien à Kinshasa?
On n'a pas besoin d'un grand nombre de trains. Vous prenez la ligne comme quand vous prenez Tchangou jusqu'au centre-ville. 4 suffiraient. pour cette ligne-là. Vous prenez une ligne, une autre ligne, Moamba jusqu'au centre-ville. 4 suffiraient. Vous prenez une ligne comme Kitambo Magasin, centre-ville et puis là-bas. Le problème part de notre conception sur la question. Aucune mégapole au monde aujourd'hui ne fonctionne sans train urbain. Aucune. Kinshasa est une mégapole. Nous sommes en train de considérer Kinshasa comme Bujumayi, comme Mbandaka. Non, Kinshasa est une mégapole et aucune mégapole ne fonctionne sans train urbain. Donc, c'est-à-dire qu'il faut déplacer les gens en masse.
Oui.
C'est ça le rôle du train urbain. Les motos ne peuvent pas faire ce travail-là. Les 207 non plus.
Avez-vous un plaidoyer à faire par rapport à ce phénomène d'embouteillage à Kinshasa?
Un matin, nous allons nous réveiller, la ville va s'arrêter. Pourquoi? Tout simplement parce que Tchangou, embouteillé, Moamba, embouteillé, Lukunga, embouteillé, et voilà, la ville s'arrête pendant 3-4 heures parce que les chauffeurs se sont mal conduits sur la route et puis ça s'est arrêté. Le problème d'embouteillage est une urgence.
Commandant Ilunga Lukunga Serge, je rappelle que vous êtes pilote de ligne et expert en transport. Nous vous disons merci.
Merci.
Merci à vous également, Stanislas Diumi. Merci à votre invité. Et nous disons également merci à Richard Junior Kamunga qui a coordonné ce journal qui touche à sa fin. Pierre Diassinois, la mise en onde. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis.